ou des tensions que la venue d'étrangers provoque dans les pays européens. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce que ces étrangers apportent aux économies européennes, au Royaume-Uni post-Brexit, les étudiants étrangers permettent.
Midi 10 sur la Clé des Andes, vous écoutez le Plat de Résistance et comme chaque vendredi dans ce Plat de Résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la Clé des Ondes 90.1. Et ben, nous allons passer la main à Rémi.
Voilà, donc c'était ce samedi 20 janvier, donc on était plusieurs de l'émission Achaïra à se rendre à l'Athénée Libertaire pour aller voir un documentaire qui était donc organisé par des gens qui venaient du Pays Basque. Et donc, ce documentaire intitulé « Biarnas, deux souffles » qui parle de la torture au Pays Basque à partir de l'expérience en fait, d'une militante qui est encore emprisonnée, qui s'appelle Iratxe Sorrozabal, et donc de cette relation aussi donc, à la torture et la relation aussi à sa mère qui s'appelle Maria Nieves Diaz. Voilà, on a passé un moment difficile, on va dire, un petit peu dur parce que la torture, c'est jamais frais. Mais en tout cas, ça met un point d'information, un point de pensée à ce qu'il s'est passé et comment ils vont faire du commun ensemble. On va les écouter de suite.
Oui, alors moi je m'appelle Inza.
Yasukima.
Alors donc c'est un documentaire qui traite de la torture pendant le conflit basque, ou en tout cas de ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années, avec un angle plus précis sur une de vos amies qui s'appelle comment ?
Iratxe Sorrozabal.
Donc qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce documentaire ?
Alors tout d'abord, nous on est amis d'Iratxe Sorrozabal, on n'est pas du tout du métier, pas du tout. Et donc on voulait quand même, en tant qu'amis, on pensait qu'on avait quand même la responsabilité de raconter ce qui s'était passé. Parce que notamment notre ami a été torturé comme beaucoup d'autres gens au Pays Basque et dans le monde. Et donc on a voulu faire un documentaire. On a voulu quand même, si vous voulez, établir un dialogue entre Iratxe et puis sa mère, Maria Nieves, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un tabou autour de la torture, on ne communique pas, tout le monde sait qu'on torture ou on a torturé au Pays Basque. Et donc, on voulait quand même briser un petit peu ce silence et puis faire un lien, établir un lien, une communication, un dialogue, on va dire, entre la mère et la fille. Et puis, de ce point de vue-là, eh bien, raconter un petit peu la problématique, en fait, de la torture au Pays Basque.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que vous dites que vous ne savez pas faire un documentaire, sauf que c'est un vrai documentaire, où vous l'avez construit. D'ailleurs, la nature a beaucoup d'importance. C'est les... Pourquoi vous avez choisi ce décor ?
Nous, on habite à Fontegabi. Iratxe et sa mère habitent à Irún. On a fait tous les
enregistrements.
Andai, c'était à côté de Fontegabi d'Irún. Et nous sommes personnes qui aiment beaucoup la mer. Et on a profité pour donner tranquillité, pour donner tranquillité à le documentaire. Parce que c'était une chose, on a parlé de choses qui sont fortes, et pour tranquilliser, pour donner un souffle.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a choisi un peu c'est la métaphore de la mer. Parce que pour nous, la mer est source de liberté. On se projette, nous on peut pas. Et puis Iratxe aussi est très attaché à la mer, et on a voulu créer ce lien en fait, comme disait Kima, pour donner un souffle aussi au documentaire, parce que c'est quand même des choses qui sont un peu dur à entendre et à voir. Et puis bon, ça, ça permet aussi de prendre un peu de souffle quand on regarde le documentaire.
Alors, on voit bien que la torture est une arme systémique dans ce conflit-là, qui est vraiment construite. Vous vous êtes basé sur des spécialistes. À un moment donné, dans ce documentaire, on voit il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question-là. Comment vous les avez fait intervenir ou vous leur avez demandé de parler de ça?
Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une partie qui est subjective. Nous, on est, pour nous, ce qui est subjectif est objectif aussi. Hein. Mais effectivement, il y a quand même une étude scientifique de la torture, de cette torture qui est systémique. Et donc, on voulait mettre ça en avant. Il y a un rapport qui a été établi par le gouvernement basque et le gouvernement de Navarre. Donc il y a des médecins légistes qui ont recensé en fait les cas de torture avec le protocole d'Istanbul, en appliquant le protocole d'Istanbul. Donc il y a actuellement je pense 5700 cas prouvés. Il y en a bien plus, on estime qu'il y a au moins 10 000 ou plus. Et donc, on voulait quand même mettre en avant cela. Je veux dire, c'est pas juste notre impression. La torture, c'est pas une impression. C'est quelque chose qui est objectif, calculé, prémédité. Et c'est un moyen qui a été utilisé pendant longtemps. Et pas seulement il y a 50 dernières années. Et donc, on voulait mettre quand même ça en avant.
Je mets vraiment votre documentaire dans un mouvement qui est en train de se passer, ou en tout cas j'ai le sentiment qu'il se passe au Pays Basque, parce que il y a des bandes dessinées, il y a des documentaires, il y a des livres qui sortent. Et alors tu parlais de libérer la parole, le conflit est arrêté, les armes ont été déposées. Et est-ce que vous, en réalisant ce documentaire, vous aviez envie de mettre une brique dans ce vivre ensemble, d'essayer de retrouver une histoire commune?
Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on sent que maintenant, il y a quand même le récit. Quel est le récit de ce qui s'est passé? Et puis là aussi, il y a une forme de domination dans la façon de raconter ce qui s'est passé. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a une parole qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Donc nous, on a voulu quand même raconter, le récit de certaines victimes. On est tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de victimes qui sont... on n'enlève en rien... la douleur est partout. Mais bon, nous on est placés, on est des amis d'Ilache, donc on a voulu quand même raconter ce récit-là de cette victime, de ces victimes, parce qu'il y en a beaucoup.
On a parlé de paix et moi je dirais d'apaisement. Qu'est-ce qui peut apaiser maintenant le Pays Basque dans cette histoire conflictuelle?
Ouf, c'est très dur ça. Je ne sais pas. Si j'avais une réponse. Je pense qu'il faut libérer la parole, il faut entendre toutes les victimes, et puis il faut une justice. Et j'ai bien peur que la justice, c'est pas juste une justice condamner un petit peu une forme de révolte. Il faut une justice aussi, parce que la révolte qu'il y a eu est issue quand même de conflits politiques. Et donc il faut quand même parler de la source du conflit, et ça c'est plus dur. Moi je pense qu'il y a une tendance maintenant, il y a eu tellement de douleurs, là on a besoin d'être un petit peu apaisé, mais après il va falloir affronter un petit peu les thèmes du conflit
et de la responsabilité
qu'est-ce qui a fait que, pourquoi. Alors on peut être d'accord ou pas, mais il faut pas négliger ça, parce que sinon on risque de retomber dans des formes de révolte, où peut-être on peut engendrer d'autres... je ne sais pas. Moi, il me semble qu'on est dans le devoir pour les générations futures de briser ça, en fait, de parler des raisons. On peut être d'accord avec les formes ou pas, mais il faut parler des raisons de ce conflit.
En tout cas, vous en parlez très bien. Merci. Biarnas, c'est un documentaire sur la torture. C'est dur, mais il faut le voir. À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Mileshker.
Député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine pour punir la trahison, la haute rapine. Ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. À force de comploter lors de mutines, à gagner sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine, ok, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine, ok, par la guillotine, par la guillotine, ok, par la guillotine.
La guillotine permanente, Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro, c'est une actrice et une chanteuse libertaire d'origine portugaise qui commence à chanter dans les années 60. Humaniste, militante, ses engagements sont multiples. Pour la Palestine, pour les réfugiés chiliens fuyant le coup d'état de Pinochet, pour les réfugiés du franquisme, pour les anarchistes, etc. Et vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1. Et maintenant...
C'est parti.
Politique internationale. Deux visions de la Palestine, d'Israël et de la notion de génocide s'opposent aujourd'hui dans le monde. D'un côté, il y a le regard pour qui domine l'horreur du génocide des Juifs en Europe, par des Européens et non, comme l'a dit Netanyahou, à la demande des Palestiniens, pour qui Israël est la mémoire de ce drame et un refuge pour les Juifs victimes de racisme, celle pour qui la Palestine est antisémite, au moins sa force politique dominante aujourd'hui, le Hamas. D'un autre côté, il y a le regard pour qui dominent les horreurs de la colonisation, avec ses génocides et l'esclavage. Les États-Unis, premier promoteur d'Israël, s'est construit sur le génocide des Indiens dans sa conquête de l'Ouest. Pour qui Israël représente la perpétuation de la colonisation depuis 75 ans, avec ses populations déplacées et réfugiées depuis autant d'années, pour qui la Palestine représente la résistance et la résilience à cette colonisation. Ces deux visions reflètent la séparation entre un Occident au passé colonial et le reste du monde, le Sud global, victime de ces colonisations. Il n'est que de regarder les médias et les opinions hors d'Europe ou d'Amérique du Nord pour se convaincre que ces deux visions sont antagonistes. L'occupation n'a pas commencé un 7 octobre, et les horreurs de la résistance à cette occupation, il y en a eu d'autres, comme des bombes dans les bus à Tel Aviv, des prises d'otages, il y en a eu d'autres, otages des Jeux Olympiques de Munich, détournement d'un avion à destination d'Israël vers Entebbe, etc. La vérité, nous ne le saurons peut-être vraiment qu'à la fin de cette guerre et de l'occupation, avec la possibilité d'enquête à peu près impartiale. Sur la résistance aujourd'hui, si elle est militairement dominée par le Hamas, brigade Al-Qassam, il est faux de dire qu'elle n'est que de son fait. Toutes les brigades, au moins 8 recensées, se sont coordonnées au travers d'un commandement général né dans les prisons israéliennes. Ils ont eu le temps
de se préparer. Cela concerne les brigades du Fatah, brigade des martyrs d'Al-Aqsa et les forces d'Al-Asifa, du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, brigade Abu Ali Mustafa, du Jihad Islamique, brigade Al-Quds, du FDLP, Front Démocratique de Libération de la Palestine, brigade de Résistance Nationale, etc., etc. Je mettrai sur le site quelques articles de presse qui détaillent ces diverses brigades, leur histoire et celle des scissions de leur groupe politique. Alors que l'on nous présente la guerre en cours à Gaza comme une guerre entre Israël et le Hamas, on voit bien que la majeure partie des victimes palestiniennes sont des civils, femmes et enfants. Et alors que les forces de défense israéliennes se frayent un chemin plus profondément dans la bande de Gaza hostile, elles font face non seulement au mouvement du Hamas, mais aussi à un éventail d'autres factions palestiniennes qui ont pris les armes. C'est bien une guerre de l'État israélien contre la population palestinienne et ses milices d'autodéfense. Bien que ces groupes varient considérablement en termes d'idéologie, d'influence et de pouvoir, ils sont unis dans leur dévouement à l'établissement d'un État palestinien par la résistance armée contre Israël. Ils ont également ouvertement démontré leur volonté de se coordonner pendant le conflit en cours, en partageant des images de leurs agents travaillant côte à côte et en publiant des déclarations conjointes. Avec ses milices palestiniennes, l'État d'Israël a face à lui d'autres formes de résistance, comme les forces armées yéménites, le Hezbollah ou la résistance islamique en Irak et en Syrie. Le responsable de ce conflit, comme dans toute guerre coloniale, est la force occupante et ses alliés. La responsabilité aujourd'hui, pour nous on va dire, c'est de demander un cessez-le-feu et non une escalade. En ce sens, le boycott de l'occupant et la campagne pour cesser de vendre des armes sont des moyens de pression pour faire cesser cet épisode et passer à une solution politique qui doit reconnaître le droit des individus, ici les réfugiés, et des peuples, ici le peuple palestinien. Cela entraînera des pertes de droits pour les Israéliens, mais ce sera le résultat de négociations. Les États-Unis aujourd'hui cèdent à flux tendu leur armement à Israël, sans lequel celui-ci ne pourrait continuer l'offensive, comptant sur le Congrès américain pour voter la reconstitution de ses stocks propres. Et l'intérêt économique derrière. Il faut voyager hors d'Europe pour voir ce soutien populaire aux Palestiniens, et pas que dans le monde musulman. Mais quelques pays en Europe, comme l'Espagne ou la Belgique, semblent développer une position moins favorable au jeu de Netanyahou. Il semble apparaître que les services secrets israéliens avaient alerté les autorités il y a plus d'un an du projet et des entraînements conformes à ce qui s'est passé, sauf la rave party qui était ignorée, semble-t-il, même des autorités israéliennes, deux jours avant, conformément au fonctionnement des rave parties, donc non planifiables par les Palestiniens. L'expulsion des Palestiniens hors de la bande de Gaza et les bombardements récents sur Rafah, la zone de repli des populations chassées du nord de la bande de Gaza, vont dans ce sens. Cette expulsion semble bien servir le projet de canal Ben Gourion qui doit concurrencer ou sécuriser le canal de Suez en passant de Eilat à Ashkelon. Mais il nécessite de dégager la bande de Gaza de sa population. Canal en double voie pour fluidifier les passages et éviter qu'un bateau qui dévie de sa trajectoire ne bloque tout le trafic comme cela s'est passé pendant 6 jours dans le canal de Suez en mars 2021. Donc il y a des intérêts économiques à cette guerre, y compris pour les États-Unis, en concurrençant les projets de chinois de route de la soie d'est en ouest. À cela se rajoutent les découvertes de gaz au large de Gaza. Guerre contre l'intégrisme ou guerre contre les juifs, ce ne sont que des drapeaux agités pour regarder ailleurs. Mais rajoutons à cette chronique le témoignage de réfractaires à l'armée israélienne, en proie aux pires difficultés car considérés comme traîtres et emprisonnés pour refus de servir dans l'armée comme talmidnik, 18 ans. Ces jeunes, comme Ariel Davidov, 19 ans, considérés comme les ennemis des colons de l'armée de la police, existent. Ariel a décidé à 15 ans de ne pas coopérer avec l'occupation et l'apartheid. Ne pas s'engager dans l'armée est l'une des choses les plus efficaces que l'on puisse faire, dit-il. Ces jeunes sont essentiels pour mettre fin au cycle de la violence. Dans les manifestations en soutien au territoire palestinien, ces jeunes Israéliens retrouvent leurs amis palestiniens où ils peuvent se reparler à nouveau. Ajoutons enfin le témoignage de Ziad Medouk. Il se définit comme un simple citoyen palestinien de Gaza, professeur de français à l'université Al-Aqsa Gaza-Palestine. Poète écrivain d'expression française, Ziad Medouk a publié « Être non violent à Gaza ». Ses livres sont un cri légitime contre l'injustice. Il est resté seul à Gazaville jusqu'à aujourd'hui. Sa famille est partie à Rafah. Voici quelques extraits de ses derniers émouvants témoignages. Celui du 26 janvier. Bonjour de Gaza la détruite et Gaza la dévastée. Croyez-moi, ma détermination, mon courage, ma résilience, ma patience et mon optimisme n'arrivent pas à dépasser ma détresse totale. Après presque 4 mois depuis le début de cette agression hostile de l'occupation contre la population civile de la bande de Gaza, la situation sur place est de plus en plus catastrophique et terrifiante. La vie est un goût amer. En fait, il n'y a pas de vie à Gaza. La vie est paralysée totalement. Il n'y a rien. Ni nourriture, ni eau, ni médicaments, ni électricité, ni gaz, ni lait, ni pain, ni fruits, ni légumes, ni viande, ni poulet, ni poisson, ni moyens de transport, ni logement, et ni perspective. Des milliers d'élèves sont privés de leurs cours, des dizaines de milliers d'étudiants sont privés de leurs études. Des milliers de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers sont privés de leur travail et de leur salaire. Rien ne fonctionne à Gaza actuellement. Aucune administration et aucun commerce. Je suis très triste. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous, les amis et les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul confort dans cet enfer quotidien. Quand j'ai un accès à Internet, j'essaie de donner des nouvelles. Le problème que pour arriver à un point Internet, je dois marcher 2 kilomètres, et devant ce point, il y a un monde fou et que chacun a le droit à 30 minutes seulement. Tout le monde veut avoir des nouvelles de sa famille au sud, et le réseau de communication est souvent perturbé et détruit par les bombardements. J'apprends chaque jour l'assassinat de mes cousins, proches, amis, collègues, voisins, étudiants. Ça me rend très triste car je suis impuissant et je ne peux pas dire un mot de condoléance à leur famille. Le sentiment d'impuissance est horrible. L'armée la plus morale au monde a assassiné 27 000 Palestiniens de Gaza jusqu'à présent. Parmi eux, 22 000 enfants et femmes et en a blessé 70 000. Sans oublier la destruction de presque 65% des infrastructures civiles. C'est de la folie meurtrière et l'impunité totale sans aucune réaction internationale officielle. Les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient beaucoup les manifestations de solidarité partout dans le monde pour dénoncer ce génocide répété et pour appeler à un cessez-le-feu immédiat de l'embargo de Gaza. Le mois de décembre 2023 était un mois noir pour moi, avec l'assassinat de mon frère et de toute sa famille. La destruction de mon appartement et notre immeuble et mon obligation de quitter mon quartier pour trouver refuge chez les proches. Le mois de janvier 2024 a connu la poursuite des bombardements et l'arrivée des chars dans toute la ville de Gaza et mon obligation de nouveau de chercher d'autres maisons pour y habiter. L'aspect positif dans tout cela qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza qui n'est plus Gaza et de Ziad qui n'est plus Ziad. Vous retrouverez l'intégralité de cette chronique avec les détails, les liens et les références sur le site du Cercle Libertaire Jean Maruet.
C'est un peu dur de faire l'éphéméride, mais là, ton texte était très très émouvant et assez puissant. Allez, on est parti pour l'éphéméride.
On est parti. C'est vrai que c'est un peu dur de sortir de ce texte. Il ne faut plus de gouvernement, écrivait François Brunel en 1889, texte chanté plus tard par Marc Rogeret. Marc Rogeret qui aurait pu avoir sa place dans cet éphéméride, puisqu'il est né le 27 février 1932. Comment ne pas se dire que les anarchistes sont dans le vrai, quand on dit qu'il ne faut plus de gouvernement? Quand on assiste à la valse des ministres sous les déjà 7 ans de présidence Macron, dans des domaines aussi fondamentaux que la santé, 7 ministres, l'éducation, 4 ministres, et la culture, 5 ministres. C'est le domaine de la culture que nous mettons en exergue dans cet éphéméride de février, domaine où les anarchistes ont toujours été très présents et présentes, qu'ils ou elles soient écrivains, écrivaines, peintres, poètes, chanteurs, chanteuses. Certains et certaines sont connus, d'autres moins. Alors, découvrons-les.
Le 16 février 1848, naissance d'Octave Mirbeau, journaliste, écrivain et polémiste. Bourgeois réactionnaire et antisémite par tradition familiale, il prend conscience de l'injustice sociale et devient anarchiste. Il collabore au journal Le Cri du Peuple et en 1885, il critique, préconise l'action lors des élections et il publie plusieurs romans, dans lesquels il dénonce l'éducation religieuse, l'hypocrisie bourgeoise, etc. En 1891, il participe au journal L'En Dehors. Et en 1893, il préface La société mourante et l'anarchie de Jean Grave, qui vaudra à ce dernier une condamnation à 2 ans de prison.
Le 4 février 1856, naissance de Paul Napoléon au Roanard, poète libertaire, injustement méconnu. Ses premiers poèmes sont des pamphlets contre la société bourgeoise. Il fonde avec quelques amis le groupe La Butte, qui aura une influence sur la littérature libertaire. En 1891, il crée le périodique L'En Dehors.
Et le 20 février 1863, c'est la naissance de Lucien Pissarro. C'est le fils du peintre Camille Pissarro et il devient lui aussi peintre et soutiendra par ses dessins ou gravures les publications anarchistes comme Le Père Peinard de Pouget et Les Temps Nouveaux de Jean Grave. Et il collabore au journal anglais The Torch of Anarchy et illustre le livre de Jean Grave, Les Aventures de Nono, en 1903.
Le 19 février 1887, mort d'Edouard Dolves Decker, dit Multitatuli, écrivain néerlandais, il était fonctionnaire en Indonésie, qui était à l'époque une colonie hollandaise. Il en démissionne, écœuré par le traitement réservé aux indigènes. Il publie en 1859 Max Havelaar, une œuvre anticolonialiste et anti-esclavagiste. Ses écrits anti-étatiques et anti-partementaires et ses combats contre la religion, la famille, les préjugés de toutes sortes, racistes, sexistes et sexuels, auront une grande influence dans le milieu libertaire.
Le 14 février 1892, à la Saint-Valentin donc, naissance d'André Clodo. Dessinateur, élève de l'école des Beaux-Arts de Dijon, il fréquente les anarchistes et donne ses dessins dans les journaux anticléricaux et anarchistes. Une illustration parue dans Le Libertaire en 1911, lui vaut d'être poursuivi par la justice.
Nous allons arrêter cette éphéméride qui était pourtant très riche, mais il sera en ligne sur notre site pour passer directement à l'agenda et terminer notre émission dans les clous pour Errance Nocturne qui arrive derrière.
Allez, c'est l'agenda. Alors, par quelle date vous commencez ?
Eh bien, demain.
Demain.
Tant qu'à faire. Donc, demain, surtout que c'est à 19h, c'est à l'Athénée Athénée Libertaire, rue du Muguet, s'il fallait le rappeler. Donc, vous avez dit fascisation. Rencontre avec Hugo Paletta, auteur de 4 livres sur la fascisation. Comment faire face à la fascisation de l'État, préparant la conquête du pouvoir politique par le FNRN. On les appelle comme on veut. Comment entraver la triple offensive néolibérale, autoritaire et raciste qui nourrit la progression du fascisme? Comment renforcer notre capacité collective d'autodéfense, à la fois contre une police largement fascisée et contre l'extrême droite de rue? Voilà les questions qui seront évoquées à l'Athénée Libertaire.
Et c'est important d'y aller.
Le jeudi 8 février, alors là, il y a le choix. Je vais faire vite et du coup, je ne vais faire que les annonces. À 19h, à l'Université de Bordeaux-Victoire, à l'Amphi Dénucé, c'est l'UPB, l'Université Populaire de Bordeaux, qui est invité à échanger avec René Otaïek, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui, sur son dernier ouvrage paru, « Féministe, arabe du Levant, portrait de femme libre ». Il rappelle que dès la seconde moitié du 19e siècle, musulmanes ou chrétiennes ont bravé les interdits dans le monde arabe, rappelant qu'il n'y a pas de fatalité patriarcale dans les sociétés arabes et musulmanes, et que les femmes ne sont pas vouées à y être soumises, voilées et recluses. Et toujours jeudi à 19h, donc voilà, ou vous vous coupez en deux, ou... Ben voilà, il faut choisir. Mais c'est très intéressant. Donc... À 19h, à l'Athénée Libertaire, toujours rue du Muguet. C'est une soirée projection-débat organisée par la GRAF, qui est le collectif anarcha-féministe. Et c'est la projection du documentaire « Des femmes face au missile » de Sonia Gonzalez, suivi d'un échange autour du thème de l'action directe non-violente en présence de la réalisatrice et d'invités. Dimanche 11 février à 14h, Bordeaux, place de la Victoire, c'est une manifestation pour protester contre l'autorisation préfectorale d'exploiter des nouveaux puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon. Ensuite, donc le Alors là, c'est toute une série à l'Utopia, hein, c'est annuel. Hein, ce sont les 20e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière n'est pas du cinéma. Hein, donc c'est organisé par les espaces Marx, Aquitaine, Bordeaux-Gironde, en partenariat avec la Clé des Ondes, Sud PTT 33 et CGT Éducation Aquitaine notamment. Donc ça se déroulera à l'Utopia du mardi 13 au dimanche 18. Vous pouvez vous référer au programme dans la Gazette de l'Utopia ou sur le site de l'Utopia.
Et ce seront les 20e rencontres. Ça fait un moment que ça dure.
Eh oui.
On a un tout petit peu de temps, donc j'ai trouvé une information. Le mardi 13 février, donc c'est le même jour que le démarrage, hein, c'est à 20h au cinéma La Lanterne, qui est l'ancien festival, 151 cours Albert Ier, la projection d'un film qui s'appelle Le Ballet Libéré. Le ballet comme un ballet. Le Ballet Libéré, projection à la cool, disent-ils, du film Le Ballet Libéré, documentaire sur les femmes de ménage de l'Université catholique de Louvain dans les années 70, mais attention, qui mettent leur patron à la porte et créent une coopérative de nettoyage. Bon,
intéressant.
Une intrigue, oui.
Voilà, et pour finir, mais ça effectivement, je ne veux pas laisser Esmeralda le dire parce qu'elle est trop modeste, le mercredi 21 février, 20h15, à l'Utopia, à Bordeaux, Les étrangers dans la résistance en France, projection du film Ni travail, ni famille, ni patrie, journal d'une brigade FTP Moy, Toulouse, 1942-1944. Suivi d'un débat avec Bernard Lavallée, professeur d'histoire, Esmeralda Travé, ici présente, présidente de l'Amicale des anciens guérilleros espagnols FFI, Manuel Diaz-Valls, sociologue, et vice-président de la Ligue des droits de l'homme Bordeaux, et José Garcia, président de l'association Caminar, ainsi que Valentin Fernandez, membre du CMREF.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
La Clé des Ondes.
Je ne voudrais pas prononcer le mot gauchisme,
oui, mais vous l'avez prononcé.
90.10.
said.
La clé des ondes, 90.10.
Est-ce que j'ai une tête de petit coucou ?
À la voir !
got what she don't know. Not the kind to want it all. I don't know, not at all. She got that fire and soul. Light me up when I've got no glow. Bring me up when I'm feeling small, my girl. Let me stand beside that fire. Let me stand beside that soul. Let me stand beside that.
À se faire des images immondes, un ciel qui tombe, peut-être qu'on tourne à l'envers. C'est la mue du serpent blanc, j'y perds mes plumes là dans le vent. C'est la mue du serpent blanc, celle qui vient pas quand on l'attend. Les infos qui s'amassent, les images qu'on ramasse, une conso qui s'encrasse. J'ai mal aux pieds de marcher nu, la vie s'emballe, on n'a rien vu. Je voudrais pouvoir hurler jusqu'à l'été, mes cordes vocales se sont cassées. J'entendais dire hier soir, à demi-mot et dans le noir, quand même ils en ont honte, c'est rassurant. C'est la mue du serpent blanc, j'y perds mes plumes là dans le vent. C'est la mue du serpent blanc, celle qui vient pas quand on l'attend. quand on l'attend.
La clé des ondes, 90.10.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon.
Shoes. I thought we'd take a holiday.